Pour moi, la famille, c'est l'engagement.
C'est un chaos plein d'amour.
C'est complexe.
Pour moi, la famille, ben, j'avais juste un mot à dire, c'est important.
Nous sommes ravis de vous accueillir pour un nouvel épisode de Pour moi, la famille, un podcast qui offre la possibilité aux familles et aux futurs parents de la communauté LGBTQ+, de partager leurs histoires, leurs défis et les solutions qu'ils ont trouvées, et ce, en mettant de l'avant leur expérience personnelle. Aujourd'hui, c'est moi, June.
Et moi, Mona.
Qui avons le plaisir de vous présenter, non pas deux, mais trois familles. Ces trois familles ont une chose en commun. Leur structure familiale sort de ce qui est perçu comme la norme en plusieurs pays occidentaux.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, une structure familiale? Très simplement, c'est comment on fait la structure de notre famille. Hein? Combien de parents? C'est quoi la nature de la relation entre les parents? Est-ce qu'ils sont en couple? Est-ce qu'ils sont séparés? Est-ce qu'ils sont amis?
Mm-hmm.
Mona, toi qui as rencontré des milliers de familles LGBTQ+,
mm-hmm.
est-ce que tu peux penser à quelques exemples de structures familiales qui sortent de la norme?
Oui, en fait, il y a plusieurs. Je ne vais pas nommer tous ces différents types parce qu'on va les rencontrer puis je ne veux pas briser le punch.
Mm-hmm.
Mais en fait, je peux penser qu'en France, pendant des années, il y avait une forme de famille très particulière. C'était des familles composées toujours de comme deux couples, donc deux femmes et deux hommes, donc une couple lesbienne, une couple d'hommes gays,
mm-hmm.
Qui fondaient leur famille ensemble. Mais c'était très populaire à un moment parce qu'il n'y avait pas une reconnaissance des familles homoparentales. Donc, pour avoir deux parents légalement reconnus, ça fallait les deux parents biologiques.
Mm-hmm.
Donc, ça, c'est un exemple. Il y a aussi, dans notre organisme, on a eu des familles ou comme deux familles séparées qui ont adopté des enfants via la banque mixte,
mm-hmm.
et puis qui ont découvert juste par hasard que leurs enfants sont de la fratrie.
OK.
Donc, c'est pas une famille pluriparentale, mais c'est quand même deux familles qui ont une grande connexion.
Tu veux dire deux couples, chacun de leur côté, qui ont adopté des enfants, puis se rendent compte que ces deux enfants-là sont frères et sœurs, en fait.
Exact, okay. Exact. Exact. Et puis, c'est pas le DPJ qui les ont dit.
Non,
ils
non.
ont découvert d'autres façons.
OK, OK.
Un peu comme convoluted.
OK.
Puis, une autre forme de famille, c'est en fait un type de famille qui est trouvé dans beaucoup de différentes cultures. Puis, moi, je pense particulièrement à l'exemple autochtone. Mais c'est des familles où la valeur n'est pas placée spécifiquement sur les liens sanguins. Donc, on a des membres de la famille comme des grands-parents, des parents, des oncles, des tantes, mais c'est des personnes choisies. Donc, ça efface pas la famille biologique, mais ça ajoute à cette famille-là.
Hmm. Ce que j'entends, c'est que les communautés 2S LGBTQ+, ont toujours su être créatives face aux restrictions
oui.
des normes hétéro, cis et coloniales.
Exactement.
Puis que les structures familiales, ça fait pas exception.
Exactement.
Donc, dans la prochaine heure, on va rencontrer trois familles qui sortent justement de ce modèle conventionnel-là. La famille de Sophie, Dominique et Eric, celle de Karine et celle d'Élise et Audrey. On a bien hâte de vous les présenter, mais avant mm-hmm. tout, nous avons quelques concepts et mots à définir dans la capsule vocabulaire. Pluriparentalité, c'est quoi ça? Une famille pluriparentale, c'est une famille où il y a plus que deux personnes qui ont un projet parental ensemble, sans nécessairement entretenir de relations conjugales. Donc, on dit pluriparental, mais on dit aussi triparental, quadriparental, etc. Ces familles-là se distinguent des familles recomposées, puisque celles-ci n'ont pas été construites à la base comme étant pluriparentales. Donc, la chose qui différencie les familles recomposées et pluriparentales, c'est qu'une famille pluriparentale est une famille pluriparentale dès le début.
Oui, c'est ça. Ils ont un projet parental commun.
Mm-hmm.
Exactement. Puis aujourd'hui, au Québec, en 2023, les pratiques légales ne permettent pas plus que deux parents de mettre leur nom sur l'acte de naissance.
Okay.
Ce qui n'est pas le cas ailleurs au Canada, donc l'Ontario, la Colombie-Britannique, même le Saskatchewan.
Okay.
Oui, c'est ça. Ils ont déjà mis en place des cadres légaux pour soutenir ces familles. Donc, on espère qu'un jour, Québec va avoir le même type de reconnaissance.
Mm-hmm. Puis, il me semble que la coalition est en train de, justement, poursuivre ce dit gouvernement.
Exact, exact. Donc, fait qu'on a vu que le gouvernement n'était pas prêt à reconnaître les familles pluriparentales, on a décidé d'aller devant les tribunaux. Donc, on a actuellement une cause devant la Cour supérieure où la coalition et deux familles sont les plaignants et puis ça implique le procureur général du Québec.
Espérons que ça se passe bien.
Oui.
Donc, pluriparental, il y a aussi polyparental. Mm-hmm. C'est quoi la différence?
Mais en fait, comme quand on parle des familles polyparentales, l'idée, c'est qu'on parle plutôt des relations conjugales entre parents, en fait, en mode relationnel des parents. Donc, par exemple, une famille polyparentale peut être une famille où il y a juste un parent monoparental, mais ce parent-là est une personne polyamoureuse.
Donc, cette personne-là est en relation avec plusieurs personnes, mais est un seul parent.
Oui, exactement. Donc, les autres personnes ne s'impliquent pas nécessairement avec l'enfant. Donc, une famille pluriparentale peut être polyparentale ou non. Puis, une famille polyparentale peut être pluriparentale ou non.
Ah,
ça fait du sens?
Ça fait du sens.
Okay.
Oui, oui.
Okay.
Le prochain terme nous a été introduit pendant le podcast. Justement, notre première famille est une famille amie-parentale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une structure familiale où est-ce qu'il y a deux ou plusieurs amis qui occupent le rôle de parents auprès de un ou de plusieurs enfants. Ces personnes-là n'ont jamais été en relation amoureuse. En fait, c'est des amis. Leur famille a été créée sur la base de l'amitié.
Mm-hmm.
Maintenant, on va donner la parole à Audrey et Élise qui ont une famille amie-parentale. Audrey et Élise sont deux amies qui ont décidé de fonder une famille d'une façon qui correspond à leurs valeurs. En effet, Audrey, qui est une femme cisgenre queer, avait été la maman solo parentale pendant 2 ans de Maëlle, avant que son amie Élise, qui elle est une femme cisgenre hétérosexuelle, parle elle aussi d'un projet en solo parentalité. C'est à ce moment qu'elle décide de fonder une famille à deux en tant qu'amie. Élise a donc adopté Maëlle et c'est elle qui a porté leur deuxième enfant, Calix.
Donc, si je me souviens bien, tu es allée tout seule pour rencontrer cette famille, hein?
Oui. En fait, cette famille-là m'a été référée par ma bonne amie Jen. Donc, je ne les avais jamais rencontrées en personne avant l'enregistrement.
OK.
Donc, avant d'y aller, j'étais un petit peu stressée parce que je ne les ai jamais vus. Je m'en vais chez eux, leur parler de leur famille quand même. Mm-hmm. Mais j'avais quand même confiance à mon amie pour me référer du monde extraordinaire. Puis, tu sais quoi? J'avais pas tort. La rencontre était tellement agréable. Élise et Audrey, qui habitent à Montréal, m'ont invité chez elles. C'était relax. Les deux habitent à quelques pas de distance. Donc, elles ont des appartements dans le même quartier.
Mm.
Et quand j'ai interviewé Audrey et Élise, les enfants étaient à la garderie. Donc, c'était silencieux.
Nice!
Yeah. C'était vraiment une rencontre qui était touchante. Puis vraiment, je pense que le mot qui ressort le plus, c'était inspirant.
Mm.
Je vous laisse écouter ça. Bonjour tout le monde. C'est avec plaisir aujourd'hui que je rencontre deux personnes qui vont nous raconter leur petite histoire. Premièrement, est-ce que vous voulez vous présenter vos pronoms et votre prénom?
Vas-y. Moi c'est Élise.
Ouais.
Puis le pronom que j'utilise, c'est elle.
Awesome.
Moi aussi, j'utilise les pronoms elle et mon prénom, c'est Audrey.
C'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Est-ce que vous voulez me présenter votre famille, bien vite, qu'on puisse savoir de qui vous parlez quand vous en parlez?
Oui, ben alors, on a deux enfants. La plus vieille, c'est Maëlle. Elle va avoir 6 ans
dans deux semaines.
Bonne fête, Maëlle.
Oui. Et on a Calix,
qui a 2 ans et demi.
Est-ce que vous avez toujours voulu des enfants?
Non. Moi, pendant très, très, très longtemps, je clamais haut et fort que je ne voulais pas d'enfants. C'est vers l'âge de 34-35 ans où j'étais un petit peu dans une période de « ben là, ça va bien au travail, ça va bien dans mes études, ça va bien avec les amis, ça va bien dans ma vie affective. » J'étais comme « ben maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? » Puis là, j'ai comme eu un flash de moi qui jouait avec un bébé par terre. Puis là, mes premiers réflexes, c'était « non, ça se peut pas, j'en veux pas d'enfants, moi, ça se peut pas que je veuille des enfants. » Mais non! Puis là, c'est comme resté dans ma tête. Puis je me suis dit, ah, ben peut-être j'en veux, finalement.
Puis toi, Élise, est-ce que tu as toujours vu les enfants?
Plus jeune, je me souviens plus. Je suis pas sûre, je me projetais tant avec des enfants. Parce que j'ai toujours trouvé que c'était beaucoup de travail. Mm-hmm. Que moi, ben, je voulais voyager, tout ça. J'ai fait des longues études aussi. Puis finalement, après qu'Audrey a eu Maëlle, justement, mais je me suis dit, ah oui, mais peut-être plus tard, quand j'aurai fini ma maîtrise, mais si j'ai pas de partenaire, mais je suis qu'un enfant tout seul. Tu sais, ça se fait.
Ouais. Avant de tomber dans le vif du sujet de votre projet parental, j'aimerais juste savoir comment peut-être vos identités LGBTQ+ ont influencé vos désirs d'avoir des enfants ou non.
Écoute, moi, mon identité a pas influencé d'avoir mon désir d'enfant. C'est plus mon féminisme qui a influencé mon choix de comment j'allais faire des enfants. L'idée d'avoir un enfant, parce que bon, moi, à la base, moi, je suis bisexuelle. Et puis, l'idée d'avoir un enfant avec un gars cis, ça me disait pas pantoute de ce que j'entendais, des témoignages des femmes de couples hétéros. Mm-hmm. Ça avait pas l'air super champion.
La famille nucléaire.
Ouais, la répartition de la charge, tout ça. C'était pas... fait que c'est plus, moi, cet aspect-là qui a influencé la façon dont j'ai choisi d'avoir des enfants. Mm-hmm. Mais mon orientation sexuelle n'a pas influencé mon désir d'enfant ou mes réflexions par rapport à comment avoir un enfant.
Mm-hmm. Moi, je suis hétéro. Mm-hmm. Puis, en fait, ça m'amenait beaucoup de découragement parce que je me disais, oh mon Dieu, mais je ne vais jamais rencontrer quelqu'un qui a de l'allure. Mm-hmm. Tu sais, parce que juste être en relation amoureuse, pour moi, tu sais, je vois ça comme impossible. Il y a comme personne de assez bien.
Je comprends, Philippe, je comprends.
Tu sais, avec qui je peux vivre comme féministe, donc encore moins pour élever une famille. Mais comme le moment où je me suis dit, mais je suis pas obligée de faire ça comme ça, mm-hmm. comme en famille nucléaire, dans un couple hétéro, mm-hmm. c'était vraiment une libération.
Justement, est-ce que vous voulez me parler un peu de votre projet parental?
Oui! Mais en fait, c'est un projet parental qui s'est fait comme en différentes étapes parce que c'est ça, à la base, moi, j'ai choisi d'avoir un enfant. À l'époque, j'étais toute seule et puis j'ai choisi d'avoir un enfant seul. Moi, je viens d'une famille monoparentale, fait que dans ma tête, c'était tout à fait une option possible. Moi, depuis que mm-hmm. je suis toute petite, que je me dis, ben je vais faire un enfant toute seule. C'est venu plus tard l'idée que, hey, ça se fait aussi à deux ou à trois ou peu importe, mais pour moi, c'était une idée qui était tout à fait...
C'était ça que tu avais connu.
C'était ça que j'avais connu. Fait que quand j'étais rendue là, mais je me suis dit, parfait, je vais faire un enfant. Je vais faire ça moi-même, artisanalement. Au début, j'étais comme, bon, je fais-tu juste coucher avec un gars puis pas y dire, mais là, j'avais des enjeux éthiques et moraux avec ça, bon, tout ça. Fait que là... en bonne 2000 et quelques...
Millénial
que je suis. Je suis allée sur Google et j'ai fait donneur sperme Montréal. Je suis tombée sur des blogs de mamans, de parents, de ci, de ça, de donneurs artisanaux, en fait, qui veulent... généreusement donner leur sperme. Il y a du monde sketchy, là. Faut comme c'est vraiment certain, faire attention. J'ai échangé des courriels avec quelques-uns. J'en ai rencontré deux, dont le donneur que j'ai choisi. Et puis, c'est un donneur que je me suis dit, ben, je serais fière, tu sais, de le présenter à mes enfants. Je serais fière de dire, mm-hmm. c'est lui que j'ai choisi pour vous concevoir. Fait que, bref, j'ai fait une première insémination et je suis devenue enceinte. Mm-hmm. J'ai eu, c'est ça, ma grossesse, super bien entourée, et Maëlle est née, petite merveille, 100% santé, tout ça.
Faut dire que Audrey et moi, ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait à ce moment-là. Mm. Pendant sa grossesse, j'étais présente, puis suite à son accouchement aussi, tu sais, je l'amenais du manger à l'hôpital pour qu'elle se nourrisse adéquatement.
Oui.
Puis après ça, mais moi j'habitais dans le quartier aussi, fait qu'on se voyait toutes les semaines. On était tout le temps ensemble, fait que même Maëlle, j'avais déjà un attachement particulier avec elle, puis... Mm. J'allais la chercher à la garderie
quand Audrey était malade.
Quand Audrey était malade ou débordée.
Oui, tout à fait. Puis là, à un moment donné, Élise, elle m'arrive, puis elle me dit « Je pense que je vais faire comme toi, Audrey. Moi, quand je vais être prête, moi aussi, je vais faire un enfant par moi-même, tout ça. Pas envie de faire ça avec un partenaire. »
Finalement, c'était au jour de l'an. Je sais plus comment c'est venu, là, la discussion.
Non, on avait bu beaucoup.
On avait beaucoup bu. Puis, c'est ça. Là, elle a dit, mais là, tu vas-tu t'occuper de Maëlle comme ta fille? Je vais-tu pouvoir m'occuper de ton bébé? Puis là, c'est là qu'on a décidé de faire ça. Ouais. Comme ça, de fonder la famille ami-parentale.
Ouais. Puis vraiment plus officiellement, là, que légalement, Élise allait adopter Maëlle, puis que moi, je serais l'autre parent sur le certificat de naissance de l'autre enfant et tout, puis qu'on serait officiellement là, une famille en bonne et due forme, là, légalement. Ben, là.
Oui, oui, oui. Je me demande, toi, Élise, comment tu te sens de comme que tout le monde prend pour acquis que t'as une famille lesbienne, lesbo-parentale?
Ah, je trouve ça drôle.
Ouais.
Ouais,
mais
ouais,
comment tu navigues ça? C'est intéressant, je trouve.
Ah, ben, je parle de, mettons, si je date quelqu'un, mais je vais parler du gars, puis, tu sais, je vais pas faire de statement nécessairement. C'est c'est comme ça. J'ai des enfants avec mon ami, puis, ouais, c'est, pour moi, c'est vraiment intégré, mais je m'amuse quand même à voir la tête des gens quand je fais ça.
Bien
je trouve ça très drôle. Ouais, puis je trouve que, tu sais, c'est pour toutes les fois que des lesbiennes vont se faire subissent l'hétéronormativité et tout ça, ben je peux bien le vivre.
Ben oui.
Aussi, je trouve ça moins pire, moins confrontant.
Mais c'est intéressant parce que disons là, que deux amis qui seraient perçus comme un couple hétérosexuel qui navigueraient la même situation que vous, mais vous avez l'étape de plus de comme... Il y a une partie de vous qui veut comme faire reconnaître votre famille. Autant, même si elle n'est pas lesbo-parentale, il y a cette partie-là, dans le sens, dans les formulaires, le fait que ce soit écrit papa, maman, comme vous rencontrez les mêmes défis qu'une famille lesbo-parentale.
Oui, absolument.
Quand vous ne l'êtes pas. Et en plus, vous avez les défis d'une famille pluriparentale. Donc, c'est intéressant de penser à tout ça. Si vous avez des défis spécifiques auxquels...
C'est vraiment plus... quand on explique qu'on n'a jamais été un couple, que le projet se fait
depuis
entre amis depuis le début, les gens, puis je spécifie, Élise est hétéro, ça n'a pas rapport. C'est parce que c'est ton ex, non. On n'a jamais été ensemble, ça n'a jamais été sur le tapis, c'est pas. Et là, ça mindfuck le monde vraiment beaucoup.
C'est juste qu'on a des valeurs très similaires.
Ouais.
C'est comme ça. T'sais, on a aussi des valeurs de vie puis des valeurs parentales aussi très similaires. Fait qu'on se complète bien dans nos personnalités. C'est comme pour ça qu'on est allé dans cette voie-là. Mais c'est ça. C'est pas... la vie amoureuse est séparée ou plus ou moins séparée là, selon la situation.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous rend fière de votre famille?
Tout!
Ben... Moi, une des choses que je trouve extraordinaire, c'est, je pense qu'Élise a vécu vraiment plus d'adversité que moi par rapport à faire reconnaître son choix par ses proches. Puis moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça parce que c'est pas facile. Et puis, fait que ce qui me rend fière, en fait, c'est comment on fait face ensemble à cette adversité-là. Et puis, comment on réussit à trouver ou créer les espaces nécessaires pour bien vivre ça, pour que les enfants le vivent bien aussi. Ouais, je pense que c'est ça dont je suis le plus fière, moi.
Est-ce que vous avez des conseils pour les futures familles ami-parentales? J'aime beaucoup le terme ami-parentale.
N'est-ce pas? C'est Jess qui nous a inventé ça, j'adore. Ça.
Est-ce que vous avez des conseils pour les gens qui veulent se lancer là-dedans?
Trouver des espaces de soutien, trouver des alliés, trouver du soutien, des alliés le plus près de sa réalité possible. Puis honnêtement, là, ça va être quétaine, là, mais communiquer beaucoup ensemble, vraiment.
Ouais. Communiquer.
Merci beaucoup d'avoir accueilli.
Merci.
Et d'avoir parlé de votre histoire avec moi.
Merci.
J'ai appris plein de choses, je suis bien heureux.
Super.
Yeah.
Excellente entrevue, très intéressant, vraiment. En fait, j'ai jamais entendu le terme ami parental avant, mais je trouve que c'est complètement apte. Et donc là, ce que je comprends, comme, c'est que ces termes sont en évolution parce qu'avant, on disait coparentalité, mais maintenant, je pense que le terme coparentalité est un peu plus utilisé pour parler de, des familles recomposées où les ex-conjoints, conjointes, font la parentalité ensemble. Donc, ça, c'est des coparents. Mais quand on parle d'ami parental, si je comprends bien, c'est vraiment comme un projet parental ensemble, entre amis. Donc, ça n'a rien à faire avec le couple.
Mm-hmm, dès le départ.
Oui, OK, cool. J'apprends.
Ben oui, oui, oui. Puis moi aussi, j'ai tellement appris pendant cette entrevue-là, puis ça m'a donné beaucoup d'espoir. C'était très inspirant parce que je veux pas, j'ai 30 ans, je suis une personne queer. Mes amis parlent beaucoup entre eux de ces idées-là. On reconstruit, on déconstruit les structures familiales. Et beaucoup de gens disent, moi, je veux ma famille avec mes amis. Mm-hmm. Mais c'est rare qu'on le voit. C'est rare qu'on est témoin de ça. Et de rentrer chez quelqu'un, d'entendre leur histoire, ça me fait du bien de voir quelque chose que j'entends toujours en théorie, le voir de mes yeux.
C'est un exemple concret.
C'est ça, oui. C'était vraiment inspirant. Merci beaucoup, Audrey et Lise, de nous avoir ouvert les portes de votre maison. Puis, bravo. La deuxième famille qu'on rencontre aujourd'hui, c'est la famille de Karine. Donc, les deux mamans, Karine et Karine, sont toutes deux des femmes cisgenres lesbiennes qui ont une famille nombreuse, composée de 8 enfants.
Oh my God!
Ils ont eu leurs 8 enfants avec différents moyens. Déplacement majorité, une tutelle des centres jeunesse et, pour les deux dernières, la triparentalité. On va se concentrer aujourd'hui sur les deux plus jeunes. Ces dernières sont issues d'un projet familial où le papa, un homme cisgenre gay, ami des mamans, a fait un don de sperme et une des deux mères a porté les enfants. Même si les deux mères sont aujourd'hui séparées et que le père vit à Montréal, les trois parents sont toujours impliqués. Donc aujourd'hui, on va rencontrer une des deux Karine.
Oui.
Comment t'as rencontré cette Karine?
Oui, mais en fait, j'ai rencontré les deux Karine. Ça fait des années. C'était au début de la coalition quand notre nom était l'Association des mères lesbiennes. Mm-hmm. Et puis, on a eu un événement dans une bar et ces deux Karine étaient là. Elle était au début de ses vingtaines et elle avait déjà 4 enfants.
OK.
Donc, 4 enfants des PJ. Et j'ai écouté leur histoire et puis c'était vraiment incroyable. Et nous avons gardé des bons liens à travers les années. Donc, ça fait comme probablement 20 ans que je connais Karine.
Mm-hmm. Mais justement, quand on a rencontré Karine, ça te faisait plaisir de la revoir.
Oui, big time.
Comme j'ai dit, on l'a rencontré en août 2022 dans un grand parc nature de Trois-Rivières. Donc, on entend les oiseaux, la plage, les enfants qui jouent avec justement Jesse, le photographe de notre expo. Donc, au niveau sonore, c'est une belle entrevue. En espérant que vos oreilles se délectent.
Mm-hmm.
Allons-y. Merci de nous rencontrer ici. On est dans un parc en ce moment. On est bien heureux. On est juste sur le bord du fleuve. C'est quoi ça ici?
Oui, c'est le fleuve.
C'est le fleuve. On est à Trois-Rivières en ce moment. Puis c'est notre premier enregistrement qu'on fait vraiment hors de la maison des gens. Donc on est vraiment enthousiaste parce que ça fait des petits bruits de nature. Vous pouvez entendre les cigales ou vous pouvez entendre les oiseaux. Ma première question pour toi, c'est premièrement, présente-toi. Qui es-tu?
Ben, mon nom, c'est Karine. Je suis maman de 8 enfants, en fait. Donc, une s'est rajoutée, je vois mon nom avec tes yeux, parce que c'est la sœur biologique d'une de mes enfants qui a décidé de m'appeler maman il y a 2 ans. Donc, c'est ajouté à la famille. Donc, vous voyez que moi, c'est une vision très élastique de la famille.
Mm-hmm.
Donc, j'ai maintenant 8 enfants.
Wow.
C'est une grande qui a 22 ans maintenant, qui s'est ajoutée.
Incroyable.
Et qui est lesbienne, qui a une blonde aussi. Donc, j'étais comme la maman parfaite aussi, je pense que c'est
wow.
ça.
Donc, 8 enfants.
Donc, j'ai eu tous ces enfants-là avec mon ex-conjointe. Donc, on a eu les 8 enfants ensemble. Et puis, les deux plus jeunes, ben il y a la particularité qu'elles ont 3 parents. Donc, moi, mon ex-conjointe et un papa aussi. Qui nous a permis là, de vivre cette triparentalité pour les deux petites dernières. Puis je vais vous parler surtout des deux petites dernières dans cette entrevue-ci, parce que si je fais le tour des 8 enfants de leur histoire, ce serait très long.
Ma première question que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est est-ce que tu as toujours voulu des enfants?
Ouais.
Ouais, depuis que tu es toute jeune?
Toujours. Je me suis toujours... En fait, moi, je suis fille unique.
OK.
Et je m'étais juré que jamais je serais toute seule dans la vie. Mm-hmm. Donc, j'étais pour avoir plein d'amis, plein de familles, puis que tous les 100 familles seraient ma famille. C'était comme un peu le... Puis je suis moi-même une enfant adoptée aussi, donc je vivais déjà ce lien-là. Donc, pour moi, c'était comme naturel d'avoir des enfants, d'adopter des enfants, mais je voulais aussi connaître ce lien biologique-là que j'avais jamais vécu.
Est-ce que ton orientation sexuelle a comme affecté un peu ton rêve d'avoir des enfants ou comment ça l'a impacté plus tôt?
Ça a été plus long.
Oui, ça a été plus long.
Elle aurait eu 20 enfants.
Ouais.
Non. Mais non, je pense que ça l'a... Comme quand j'ai compris que j'étais gay, comme j'étais quand même assez jeune, puis moi, dans ma tête, c'était comme, je peux pas être gay parce que j'aurais pas d'enfants.
Ouais.
C'était vraiment ça. Puis je me souviens comme... c'était dans le temps de Noël. Puis là, il y avait comme le truc du Père Noël, là, comme puis avec tous les enfants qui attendent avec les parents en ligne. Puis moi, je regardais, puis je pleurais, tu sais. Comme j'aurais pas d'enfants, j'étais vraiment triste. Puis là, j'étais comme, je peux plus faire fi de mon homosexualité, c'est clair. C'est comme, j'ai comme pas le choix de le vivre, sinon je fais fi de moi-même. Je devais comme, pour accepter d'être gay, je devais accepter de pas avoir d'enfants. Et puis là, j'ai rencontré comme mon ex-conjointe avec qui j'ai été pendant presque 17 ans. Et sans vouloir des enfants, on est comme devenu famille d'accueil sur le fly pour eux, vraiment, très, très rapidement. Puis là, après ça, c'était le comment, comme pour avoir des enfants biologiques.
Mm-hmm.
Et là, ça a été la saga, là. Ça a pris des années. Puis à chaque fois, comme qu'on était prête à dire, OK, maintenant, on va avoir un enfant biologique, bien, il arrivait un autre enfant qui avait besoin de nous. Fait que ça retardait un peu le projet en disant, ah, bien là, on va se consacrer à cet enfant qui arrive.
Mm-hmm.
Puis là, on tassait comme le projet de maternité. Puis il y avait l'élément où, je sais pas, de façon assez confuse, mais je voulais qu'il y ait un père dans le décor des enfants.
Ouais.
Je sais pas pourquoi, parce que toutes mes amies de filles qui ont eu des enfants, c'était comme... eux autres, ils allaient dans des banques de sperme, puis il y avait un donneur, puis c'était cool. Fait que ça restait, puis j'étais comme dans mon monde idéal... Ce serait comme un homme gay qui restait pas trop loin puis que les enfants pourraient comme naviguer dans leur famille un peu. T'sais, aller chez leur papa, chez leur maman, puis tout est cool. Puis c'était ça l'idéal rêvé d'abord, tu sais. Puis bon, ben, c'est pas facile de trouver un ami gay qui veut des enfants puis qui lève la main. Go, je veux, ça marche pas de même. Mon ex est allé en Colombie-Britannique pour apprendre l'anglais. Elle m'a appelé comme après 3 semaines. Elle dit, écoute, je pense que je vais pas apprendre l'anglais.
Hein?
Je fais comme, OK. Puis comme, elle dit, mais je pense que j'ai trouvé peut-être un père.
Un plus et un moins, OK.
J'étais comme, OK. Et quand il est revenu sur Montréal, on l'a rencontré au festival de jazz.
Hein?
Mais là... Mon ex, elle était gênée dans la situation. Elle m'a abandonnée avec lui. Fait que moi, comme il faut que je parle des choses comme délicates. Puis là, c'était comme, OK, est-ce que tu as déjà imaginé avoir des enfants?
Ouais.
Comment tu te projettes? C'est quoi les valeurs? Puis comme, tu sais, moi, j'aime pas perdre mon temps dans la vie. Fait que je suis comme allée un peu...
Direct,
tu sais. Ouais. Moi, j'aimerais avoir des enfants. On aimerait un père présent. Toi, est-ce que tu t'es déjà imaginé père? Et puis, après ça, on a créé une amitié sur comme 3 ans où on parlait toujours du projet d'enfant, mais comme en se découvrant comme amis, comme être humain aussi, je pense, plus fondamentalement. Puis, à ma fête, il m'a donné une carte comme « Maintenant, je suis prêt à être père avec vous, si vous le voulez, tu sais. Si vous le voulez toujours, quelque chose
c'est
comme
cute,
ça. » Ouais, c'était vraiment cute. Puis là, on a comme commencé ce que j'appelle les démarches plus sérieuses, où on doit rédiger un contrat parental. Donc là, on s'est inspiré du modèle qu'il y avait sur le site de la Coalition à l'époque, modèle qui a été utilisé abondamment par plein de gens. Puis on l'a comme mis à notre sauce, vraiment... en ayant 3 personnes, en ayant un papa présent. Puis là, ça nous a obligés à réfléchir comme les valeurs qu'on voulait transmettre, la religion pour religion, la langue parlée, l'éducation. Donc, on a écrit le contrat, puis on l'a écrit tout de suite pour deux enfants. Parce qu'on trouvait, que c'était une... C'était du travail. Puis moi, j'étais comme... Je trouvais que c'était lourd pour juste une enfant ou un enfant de porter cette histoire familiale-là. Mm-hmm. Fait que je me disais, ben, s'ils sont deux à vivre trois parents, ben, ils vont soutenir là-dedans. T'sais. C'était un peu ça, l'idée. Donc, ils ont été deux.
Déjà décidé.
C'était comme carnet, un deal. Contrat, package deal, deux enfants. Package puis on avait deal. Déjà parlé des prénoms aussi dans le contrat.
Oh, wow!
Oui, oui. Puis dans Alex est colombien, donc il fallait qu'il y ait deux prénoms. On avait déjà déterminé quel nom de famille, l'ordre des noms de famille. Donc, c'était drôle parce qu'on a comme finalisé, on s'est dit, OK, là, c'est fait. Puis comme ça a comme coïncidé avec l'ovulation.
Oh.
Comme la fin du contrat.
Le
là,
drôle
quand on a dit, OK, il est beau, là, il y a eu comme la période d'ovulation. J'étais comme, OK, go, ça marche.
On a signé, là, de toute façon.
C'est ce soir que les choses se jouent. Donc là, j'ai une de mes amies qui s'appelle Julie, qui garde les enfants en bas. C'était super complexe parce que nous, c'est de l'insémination artisanale. Mm-hmm. Mais là, comme il fallait comme qu'on reste pour les enfants, pour aider ma chum Julie, parce qu'ils sont sur Saint-André puis ils courent comme ça.
Puis là,
Alex... Alex est allé à la chambre.
Ouais.
Il est allé faire son petit truc, tu sais.
Ouais.
Là, nous, on attend, tu sais, comme... Puis là, il nous envoyait comme un texto. OK, c'est prêt, on se croisait dans la cage d'escalier.
Oh my God!
C'était comme vraiment, vraiment très épique, là. Et là, comme un mois plus tard, je fais le test de grossesse positif.
Wow!
Comme une insémination.
Yes!
Fait qu'on a eu comme... les filles ont 2 ans et demi de différence. Mm-hmm. Fait qu'elles sont quand même assez proches. Mm-hmm. Puis c'est ça. Les deux partagent la même réalité d'avoir deux mamans et puis un papa. Puis quand elles dessinent leur famille, c'est comme elles demandent plus de feuilles parce que ben, y a des gens que je vais pas mettre.
C'est une grande arbre généalogique.
Ouais. J'ai eu à faire l'arbre généalogique de Zoé Alexandrine pour la fin de l'année scolaire cette année. C'est comme on a rajouté des branches, on a broché des feuilles, parce qu'on avait comme une petite feuille 8,5 par 11. Comme...
Ça ne marchera pas, ça.
Non.
Mais non.
Pas avec vous.
T'es allé au Dolorama, vous étiez chercher une grosse pancarte.
Mais pour qu'elles se reconnaissent aussi. Parce que là, c'était comme, mais je le mets où, mon papa? C'est comme, je mets où ma maman ou mon autre maman? Comme, elle ne savait pas. Pour les petites, ils racontent à l'école comme quand Zoé Alexandrine était à la garderie, Zoé a commencé à parler très, très tôt dans son développement puis à raconter sa vie. Fait quand elle est à la garderie, elle dit « Moi, je vais aller en Colombie avec mon papa. » Et puis, mon papa, il s'appelle comme ça, puis blablabla. Bla, bla. Puis l'éducatrice me dit « J'aimerais te parler d'une situation, OK? Mais... C'est parce que Zoé, je pense qu'elle aurait besoin d'avoir un papa. Il nomme comme... Je dis, mais Zoé a un père.
Oh! Oh!
Je dis, ce qu'elle te raconte, c'est vrai, elle s'en va en voyage avec papa. Tu sais, c'était c'est comme... Elle avait 2 ans et demi, fait que c'était un peu décousu.
J'imagine le fait que Alex n'est pas parent légal. Est-ce que... Ça faisait des problèmes ou...
Bien, ça fait pas de problème, mais c'est comme... C'est nous, les parents légaux. Fait que s'ils voyagent avec les enfants, bien, il faut remplir des papiers. Fait que ça fait comme si nos enfants partaient en voyage scolaire, mettons, dans le type
avec
de
un
papier,
étranger.
Avec un étranger. Mm-hmm.
Et puis, est-ce qu'il n'y a pas eu congé parental?
Il n'y a pas eu de congé de paternité parce que c'est l'autre parent qui l'a. Au niveau de la loi, si, par exemple, il m'arrivait quelque chose ou je décédais demain...
Ouais.
Ben ça lui vu qu'il n'est pas parent légal, ben ça c'est sur la bonne foi de l'autre parent qu'il soit présent. Donc c'est plus ça l'enjeu, c'est un enjeu d'avenir. Si on dit faut placer les enfants, l'intérêt de l'enfant au cœur, ben pour moi c'est l'intérêt de l'enfant qui est mis là. Ça sera pas selon les chicanes des adultes ou les ça va être vraiment selon le droit de l'enfant de profiter de tous ses parents.
Est-ce que tu as des conseils pour les futures familles pluriparentales?
Ben, d'être capable de rêver leur modèle familial,
ouais.
De l'imaginer, de ne pas écouter les gens. C'est de dire, ben moi, je suis qui? Qu'est-ce que j'ai le goût d'être, de créer? Qu'est-ce que j'ai le goût de livrer? Puis de toujours placer les enfants au cœur. Ben, pour moi, la famille, c'est la vie. C'est ma vie.
Merci beaucoup à Karine.
Oui.
C'était une entrevue autant le fun dans le contenu que dans le contenant. C'était le fun, les vagues, les
oui,
oiseaux.
C'était beau.
Oui, c'était très beau. On a appris beaucoup de choses. Premièrement, moi, j'ai appris à quel point l'absence d'un cadre social, ça met une charge sur les enfants. Fait que les enfants, parce que leur famille n'est pas reconnue légalement, se retrouvent à devoir toujours défendre qui est-ce qu'ils sont, défendre qui ont... Mais dans le cas des deux plus jeunes filles qui ont trois parents, un papa, deux mamans. Mm-hmm. Puis ça peut être très lourd pour les enfants de vivre ça.
Oui, oui. Puis ça me fait penser beaucoup au changement qu'on a vu avec les familles homoparentales, mm-hmm. comme l'importance symbolique de, comme des changements dans les lois. Parce que quand les lois reconnaissent les familles, ça mène à une inclusion sociale aussi. Mm-hmm. Comme au Québec, quand les familles homoparentales étaient reconnues, c'était seulement 10 % de la population qui était à l'aise avec okay. une famille comme ça. Puis déjà, comme un sondage de Léger Marketing en 2014 nous a dit que déjà 85 % des personnes étaient à l'aise. Donc, c'était à cause des changements des lois. Ça menait à un changement des attitudes.
Mm-hmm. C'est qu'en changeant les lois,
oui.
en prenant le pas, en faisant le premier pas, le gouvernement oui. a montré aux Québécois, en fait, que,
oui.
que les familles homoparentales, ben, sont incroyables.
Ils ont fait l'exemple pour tout le monde.
Oui. Oui. Notre troisième et dernière famille qu'on présente aujourd'hui, c'est la famille de Sophie, Dominique et Eric. Avant de décider de former une famille à trois parents, parallèlement, le couple, alors formé de Sophie et Dominique, et Eric, de son côté, avaient chacun un projet familial en tête. Suite à quelques échanges, ils ont décidé d'unir leurs deux projets en un seul, en procédant par insémination à la maison. Même si Dominique et Sophie sont maintenant séparés, les trois parents ont toujours tenu à maintenir la communication et leur entente unique, puisque leur modèle familial n'est pas protégé par la loi au Québec. Ils sont maintenant une famille recomposée, pluriparentale. Donc, Mona n'était pas là lors de la rencontre à cause d'un contretemps, mais ça m'intéresse de savoir quand même d'où est-ce que tu connais tout ce beau monde-là.
Mais en fait, je connais Sophie puisqu'elle est la porte-parole pour l'organisme Interline. Et comme elle est publique par rapport à sa triparentalité, nous avons décidé de la contacter pour avoir une entrevue.
OK, parfait. Donc, je ne la connais pas nécessairement plus que moi. Donc,
oui.
vraiment, avec cette entrevue-là, on apprend à les connaître.
Mm-hmm.
Je les ai rencontrés en septembre 2022 dans un parc du quartier Rosemont lors d'une belle journée ensoleillée. Le parc était particulièrement animé ce jour-là. Une vente de garage à côté de l'église, deux fêtes d'enfants, puis une entrevue passionnante avec trois âmes généreuses. Donc sans plus attendre, je vous présente Sophie, Dominique et Eric. De m'accueillir dans cet grand espace vert qui est le parc Baldwin.
Oui.
comme on est en nature, ça se peut qu'on entende des petits bruits de guêpes, des petits bruits d'insectes. Donc, si vous entendez un son strident,
c'est la nature.
Oui, exactement. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir quatre invités. Et ma première question pour vous, très simple, est-ce que vous pouvez vous présenter, me dire vos prénoms, vos pronoms, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Allez-y, comme vous le sentez.
Parfait. Donc, mon nom est Sophie Paradis. J'utilise le pronom « elle » et je suis mère, mais aussi comédienne.
Éric Jean, donc « il ». Je suis metteur en scène et directeur artistique de deux lieux de théâtre.
Alors, Dominique Joly, j'utilise le pronom « elle » aussi et je suis producteur exécutif en télé.
Moi, c'est Elliot et je suis un garçon. Mm-hmm. J'aime beaucoup les mangas et ben, je vais à l'école.
En quelle année?
Et je suis en cinquième.
Nice. Ma première question pour vous, qui est ma question bonbon, parce que je trouve que ça va toujours un peu partout dans tous les sens, c'est est-ce que vous avez toujours voulu des enfants?
J'ai toujours été proche des enfants. J'ai toujours eu une affinité particulière, même quand j'étais plus jeune et même la plus vieille parmi les enfants plus jeunes, les cousins, tout ça. J'ai jamais imaginé avoir une famille jusqu'à ce que je sois en couple un jour avec Dominique. Et c'est ça. C'est comme venu tout d'un coup, oui, vraiment, ça me tente et tout ça. Fait que c'est un peu ça de mon côté.
Et toi, Dominique?
Moi, j'ai toujours voulu des enfants. Même, j'ai été longtemps en couple et j'ai laissé ma conjointe parce qu'elle ne voulait pas d'enfants. J'ai arrêté la relation pour ça. Et quand j'ai... ça serait long d'expliquer la relation que j'ai eue avec Sophie, mais quand on a décidé d'être en couple, ouais. Ça a été une des premières questions qu'on s'est posées. Veux-tu des enfants? Et c'est venu d'emblée. On s'est toujours bien entendu sur... c'est la version de famille qu'on souhaitait, sans nécessairement avoir une idée claire. Mais oui, j'ai toujours voulu avoir des enfants.
De mon côté, je dirais que j'ai tergiversé pendant longtemps. Oui. C'est surtout vers l'âge de peut-être après 35 ans là, que j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire ma vie au complet sans avoir d'enfants.
Puis, est-ce que votre orientation sexuelle a eu un impact sur votre vision de la famille puis de le potentiel que vous pourriez avoir des enfants?
Moi, oui. En fait, ça a été ça. Oui. C'est comme si, à partir de 21 ans, quand j'ai accepté mon homosexualité jusqu'à 36, 37 ans, c'est comme si j'avais associé le fait que je sois gay, je pouvais pas avoir d'enfants.
De mon bord, comme j'avais pas nécessairement imaginé avoir une famille un jour où j'étais juste pas là-dedans, au moment où cette option-là est arrivée dans ma vie, si on veut. Pour moi, tout était possible, fait que j'avais comme pas de deuil. En fait, c'est pas vrai, finalement, je me rends compte qu'il y avait quand même un certain deuil à faire s'il n'y avait pas eu un papa présent dans le lot. Puis là, j'empiète un petit peu peut-être sur le sujet, mais ça fait partie du choix. Moi, mon choix principal, c'était vraiment qu'il y ait un père présent dans la vie de mon ou mes enfants, tu sais. Fait que puis Dominique était d'accord aussi. Puis Éric, de son côté, à un moment donné, on bifurque. C'est correct qu'on s'en va.
Ouais, ben justement, ma prochaine question, c'est ça. Est-ce que vous voulez me parler un peu de votre projet parental? Donc, le projet parental, c'est quoi? C'est avant d'avoir votre enfant.
On a comme deux histoires, allez-y. En fait, parallèles qui ont donné notre super famille. Donc, en tant que couple, on est allé, comme Do le disait, vers une banque de sperme et tout ça, puis on était rendu à choisir dans les derniers, tu sais, avec les photos puis tout ça, là. On choisissait, on était vraiment, je pense, c'était un samedi matin. Moi, je travaillais sur le bord du fleuve à Saint-Jean-Port-Joli, puis je reçois mes courriels, puis là, je reçois un courriel d'Éric, que je connais du lac Saint-Jean, parce que Éric, c'est un ami de mon frère.
J'ai connu Sophie, elle avait 10 ans.
L'âge d'Eliott aujourd'hui.
L'âge d'Eliott aujourd'hui, exactement.
J'adore.
Comme Sophie disait, nous, ça fait longtemps qu'on se connaît, Sophie et moi, puis on œuvre aussi dans le même milieu, tu sais, dans le milieu du théâtre. Fait qu'on se croisait des fois dans certains événements. Puis moi, j'étais partie en voyage au Mexique. J'étais dans un moment d'introspection dans ma vie où je faisais comme des bilans. Tu sais, j'avais 40 ans, donc je faisais un bilan professionnel, un bilan personnel. Puis je me disais, bon, le fameux deuil que je suis pas capable de faire, là, de pas avoir d'enfant, qu'est-ce que je fais avec ça? Et je me suis mis à écrire et j'ai écrit un long courriel que j'ai intitulé « Rêve ». Et je savais pas si j'allais l'envoyer. Puis à un moment donné, je me suis décidé, j'ai sélectionné plein d'adresses de courriels de plein de femmes que je connaissais et je l'ai envoyé. Puis ce courriel-là disait « ben moi, je rêve de me faire appeler papa un jour puis de construire une relation avec un enfant et tout ça ». Puis j'ai envoyé entre autres à Sophie que je connaissais, puis Ben c'est ça. Comme Sophie disait le quelques heures plus tard, moi j'étais au Mexique, donc elles étaient au Québec, à Saint-Jean-Port-Joli, je me trompe pas,
oui.
Dans un
là,
chalet.
Là, on le reçoit. Je lis à voix haute. Dominique, elle connaît pas Eric, mais là, moi, wow. Je pense qu'il écrit parce que...
Moi, je suis dans les banques de sperme.
Moi, je fais, ah, ben j'ai des nouvelles. Là, je le lis à voix haute sans trop savoir c'était quoi. On découvre le courriel ensemble, Do et moi, puis là, les larmes, tout ça.
Puis moi, c'était au début, c'était vraiment une démarche personnelle. Je voulais pas vivre avec le regret de ne pas avoir essayé.
Ouais.
Et je me disais, je vais écrire ce courriel-là comme une bouteille à la mer. Mm-hmm. Puis si ça marche, ben tant mieux, ça va être extraordinaire. Mais si ça marche pas, je pourrais pas m'en vouloir. Ouais. Tu sais, quand je vais avoir 60, 70 ans, je pourrais pas dire, hey, j'ai pas essayé. Fait que là, mais là, heureuse surprise, le lendemain matin, quand je me lève, j'ai un courriel, j'ai un message.
Directement, de... j'imagine que tu t'attendais pas à recevoir une réponse
non,
aussi vite. Hein?
Non, pas aussi vite. Puis ça, puis fait que j'étais vraiment, mon Dieu, ému.
Ouais.
Touché par la réponse des filles et tout ça. Puis quand je suis revenu au Québec, ben, on s'est donné rendez-vous. Je revenais quelques jours plus tard et on s'est vu sur une magnifique terrasse pour faire connaissance, Dominique et moi,
ben oui,
puis pour
ben
parler
oui.
Un petit peu plus de « OK, c'est quoi ce projet-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? »
Je pense que naturellement, ce projet-là s'est construit autour d'une réelle volonté de chacun de faire cette famille-là comme on voulait la faire.
Mm-hmm.
Fait qu'on s'est comme... On a mis carte sur table sur ce qu'on souhaitait,
ouais.
Sur des valeurs de base autour duquel on se rejoignait. Parce que je pense qu'une des seules phrases qu'on s'est dit, c'est « Peu importe comment la situation se présente, on prendra toujours une décision en fonction du bien d'Eliott. » Est-ce que c'est la première fois que tu entends cette histoire-là, toi?
Je l'avais déjà entendu, maman, je l'avais raconté, je pense papa aussi, fois. Je pense toi aussi.
OK. Oui, évidemment, tu l'entends toujours trois fois. Hein?
Encore. Votre famille n'est pas reconnue légalement?
Ben non.
Est-ce que vous avez des exemples d'impact comme réels pour les gens à la maison justement qui écoutent, qui ne connaissent pas nécessairement cette réalité-là?
Dominique a un bon exemple, hein,
ouais.
Le voyage et tout
ouais.
Ça.
En fait, mon frère habite à Boston avec les cousins,
mm-hmm.
Ses deux enfants et sa femme. Et donc, pour nous, d'aller voir les cousins, c'est toujours un... En fait, on n'y va pas parce que si jamais il arrivait quelque chose... c'est pas garanti que je vais être reconnue comme étant quelqu'un qui peut décider pour Eliott en cas d'urgence.
Mm-hmm.
Je pense que d'avoir une structure légale, ça aide à se poser moins de questions, ça enlève des flous, ça donne des ancrages à chacun. Ça n'existe pas. Fait que...
Ouais, surtout que si jamais, on le souhaite pas évidemment, mais si jamais il arrivait quelque chose à Sophie et à moi,
ouais.
Ben là, ça met Dominique et Eliott dans une situation...
Ouais. Mais c'est vraiment, ouais. C'est vraiment une relation de confiance générale, dans le sens où autant par rapport à la famille de Sophie qu'à la famille d'Éric, mm-hmm. Parce que tout le monde a plus de droits que moi.
Mm-hmm.
Fait que,
ouais.
Si on recule un peu, je me demandais comment vous avez apporté ça à vos familles? Comment vous avez discuté de que vous vouliez créer une famille à trois? Avec...
Sophie est enceinte.
Ça fait aussi
ouais,
simple que
non,
ça. Hein?
Ben, c'est parce qu'en fait, oui, on a pensé à nous, je pense.
Ouais.
En tout cas, je vais parler pour moi. J'ai pensé à moi, puis ma famille que j'ai envie de bâtir, c'était ouais. Avec eux. Puis c'est ce qui est arrivé.
Moi, je dirais que j'en avais pas parlé à ma famille, juste à ma sœur aînée. Je me souviens le soir où je suis parti de chez nous, puis je m'en allais chez les filles, puis OK, c'est ce soir qu'on essaie. J'étais comme un peu nerveux. Je me disais, hey, je suis peut-être en train de changer vraiment le cours de ma vie. Puis j'avais besoin de le dire à quelqu'un. Puis que j'avais appelé ma sœur aînée. Puis j'avais dit, tu sais pas où je m'en vais? Puis elle me dit non. Puis je viens d'acheter une bouteille de champagne. Puis je m'en vais chez Sophie et Dominique. Tu sais, j'avais vaguement parlé d'elle. Tu sais. Mais tu vas faire quoi? Ben je dis, on va essayer de faire un pépé. Là, ma sœur, quoi? Elle a crié au téléphone, OK, tiens-moi au courant. T'sais. Puis finalement, quand Sophie a été enceinte, ben, à un moment donné, j'étais à Alma, fait que je l'ai annoncé à mes sœurs, à ma mère, mon père. Puis là, tout le monde s'est mis à pleurer. La surprise, vraiment, mm-hmm. Sur les visages, parce qu'ils ne savaient pas que c'était un projet.
Ouais, ouais.
Fait que c'était un beau moment. C'était... Mes sœurs ont broyé en masse. Hein.
Oh. Qu'est-ce qui vous rend fier de votre famille? Qu'est-ce qui vous rend fier?
Tout.
Tout.
Mais oui, c'est vrai. Ouais. Tout. C'est parfait et imparfait, et c'est parfait que ce soit imparfait.
C'est ça.
Moi, ce qui, je dirais, une des choses qui me rend le plus fier, c'est lié à la famille, mais c'est du côté d'Eliott surtout. Mm-hmm. C'est la manière dont Eliott agit avec les autres. Mm-hmm. Comment il est en interaction avec les adultes, avec ses amis, avec ça, je trouve que je me dis, ah, il y a quelque chose qu'on a réussi en tout cas.
D'avoir réussi ce qu'on a eu le courage de faire.
Mm-hmm. Ouais.
Ça, je trouve que c'est... Puis ça marche tout le temps. Mm-hmm. Quand tu as le courage de faire quelque chose et le courage de...
D'aller jusqu'au bout.
D'aller jusqu'au bout. Le sacrifice n'est pas... Ou les sacrifices qu'on... sur lesquels auquel on donne beaucoup de valeur au départ, c'est le fun de s'être offert de vivre ça.
Pour moi, la famille, c'est le chemin de tous les possibles.
Pour moi, la famille, c'est l'amour.
Wow, excellente entrevue. Vraiment, vraiment touchant.
Vraiment, j'étais tellement content qu'il soit généreux comme ça avec moi. Puis j'ai appris des affaires. Là, comme un truc que j'ai appris, c'est comment... On n'a pas de contrôle vraiment. On ne sait jamais qu'est-ce que la vie nous réserve. Ces trois personnes n'avaient aucune idée qu'elles allaient finir à faire une famille en pluriparentalité.
Oui, c'était comme le destin.
Le destin, c'est
oui.
Ça.
Oui. Pour moi, c'est comme en les écoutant, c'est comme la beauté et la simplicité de leur projet parental. Et puis, en même temps, comme ironiquement, le fait que ce genre de famille n'est pas reconnu. C'est comme, c'est triste, je trouve, que comme une famille qui est tellement belle comme ça n'a pas une reconnaissance légale.
C'est vrai. Merci beaucoup à Sophie, Éric et Dominique de nous avoir offert de leur temps.
Oui.
Nous avons eu le plaisir aujourd'hui de rencontrer trois familles incroyables.
Mm-hmm.
La famille de Audrey et Élise, celle de Karine et Karine, ainsi que celle de Sophie, Dominique et Éric. Merci énormément à ces trois familles de nous avoir ouvert vraiment leur histoire. Trois familles avec des parcours complètement différents, mais qui se rallignent, qui se rencontrent en fait au point culminant d'avoir une famille qui a une structure différente en fait. Mona, par rapport aux structures familiales dans les 25 prochaines années, comment tu vois ça?
Avec les années, les différentes formes de famille vont se diversifier, je suis certaine. Et je crois que nous allons voir encore plus de familles pluriparentales, plus de familles amiparentales. Ça fait de sens, ces familles-là. Comme les tâches sont partagées, il y a plus de temps, plus de ressources, plus d'énergie. Les parents sont plus reposés en général. Comme c'est de plus en plus difficile d'avoir des familles aujourd'hui, c'est même un choix plus prudent, je crois. C'est un choix écologique. C'est bon pour la planète.
Le prochain épisode est sur les notions de famille choisie et de famille d'origine. Nous aurons le plaisir de rencontrer encore une fois trois familles, celle de Rachel et Marie, celle de Marianne et celle de Philly et Roxane. C'est un rendez-vous dans deux semaines, donc le 29 juin. À bientôt! Ce balado est une production de la Coalition des familles LGBT+. Animation, réalisation et montage par Henry June Pilote. Co-animation par Lani Trilène et Mona Greenbaum. Musique par Nkoussi. Ce balado doit avant tout sa magie et son authenticité à l'accueil chaleureux et sincère des 34 familles et futures familles que nous avons rencontrées. Merci énormément.